d'être venus aussi nombreux, je vois que les chaises vont bientôt manquer. Merci de nous rejoindre ce début d'année pour les premières conférences pour le redémarrage de l'année 2018 des conférences de la pipe en vol. Quelques informations concernant la pipe en vol avant de passer la parole à Bernard Ferrand qui présentera la conférence. Je vais vous parler d'abord du programme, enfin de certains points du programme qui va venir maintenant. Le 31 janvier, à Rieux, il va y avoir l'Assemblée Générale. Nous souhaitons vous voir tous, ou le plus grand nombre possible, à cette Assemblée Générale.
Et lors de l'Assemblée
Lors de l'Assemblée Générale, il y aura aussi une demande de candidature pour de membres du Conseil d'administration. Il y a 3 places à pourvoir. Vous pouvez y venir, c'est très sympathique, c'est très convivial. Dans le droit fil des habitudes de la pipe en vol, le conseil d'administration se termine par un repas partagé. Il se tient en général une fois par mois chez l'un ou chez l'autre. C'est tournant chez les gens qui veulent bien accueillir les membres du CA. En ce qui concerne la suite du programme, le 14 février, nous participons partenariat au Festival de cinéma de Ciné Carbone. Il y aura donc le 14 février à 19h30 à Carbone une conférence faite par Lula Delgado sur le geste du comédien. Le 28 février à Rieux-Volvestre à 20h une conférence sur l'habitat coopératif, la MASCOP. Et le 28 mars à Montesquieu par M. Jean Vaquet, un universitaire, une conférence portant sur l'histoire, la préhistoire dans la région. Voilà les informations que je tenais à vous communiquer concernant la pipe en vol. Je passe maintenant la parole à Bernard qui va présenter la conférence.
La présenter d'une manière assez simple. Donc, c'est une conférence faite par Françoise Vallon, ici présente.
Bonjour.
Et ensuite, le seul titre qu'elle veut qu'on lui donne, c'est philosophe, ce qui a été fait par la pipe en vol. Il faut espérer que cette conférence soit digne de la démocratie, comme nous sommes nous-mêmes dans la vie de tous les jours. Et le plus simple, c'est donner la parole à Françoise.
Merci. Moi, je vous remercie beaucoup de m'accueillir ce soir. Je vous remercie beaucoup parce que c'est une question que je trouve importante, même si elle a eu un moment, elle était à la mode et puis elle ne l'est plus tellement. Mais je crois que ça vaut la peine. Alors pourquoi je dis, est-ce que la démocratie est digne de son origine grecque? Parce qu'il y a une origine grecque. Je veux dire que d'ailleurs les Grecs, c'est pas vrai de dire les Grecs, en fait c'est les Athéniens. Parce que c'est pas du tout le cas des Spartiates ni des Corinthiens par exemple. Donc les Athéniens, ils ont découvert, c'est Finlay qui dit ça, j'ai mis une petite bibliographie à la fin où vous verrez que Finlay est quand même une base solide. Et Finlay dit que les Athéniens ont découvert la démocratie comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique, et pas quelques navigateurs vikings qui avaient peut-être été en Amérique, mais qui n'avaient pas considéré cette découverte comme une découverte fondamentale. Parce que les Athéniens ont été les premiers à réfléchir systématiquement à la réalité politique, à la décrire, à la commenter et à la mettre en place d'une manière absolument volontaire pendant 2 siècles, même plus de 2 siècles, mais enfin disons au minimum 2 siècles, entre le début des guerres médiques, on va situer en 500 avant Jésus-Christ à peu près, et puis la bataille de Chéronée en 338 avant Jésus-Christ, qui a été gagnée donc par Philippe de Macédoine, et qui a mis une garnison de type oligarchique dans la ville d'Athènes pour juguler la possibilité de démocratie qui était encore présente. Bon, la démocratie a eu une renaissance après, mais ça n'a jamais été aussi complet que quand Périclès l'avait formalisé en quelque sorte. Bon, alors c'est ce qu'on va essayer de voir. On va essayer de voir comment elle s'est pas construite en un seul jour, hein, cette démocratie. On va essayer de voir comment elle s'est construite, à la suite de quoi et pourquoi, parce que beaucoup d'idées fausses ont été proposées à ce sujet. Par exemple, on a pu dire, ça c'est Marx qui dit ça, hein, Marx dit la démocratie athénienne, elle a existé grâce aux esclaves. Donc, et ça, c'est un argument thermidorien. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'ont dit les thermidoriens après la Révolution française qui essayaient de s'inspirer de la démocratie grecque. Les thermidoriens ont dit « Ah oui, mais les esclaves !» Et c'est un argument qui a repris Marx, c'est ça. Hein. Donc, bon, ça c'est un argument, on verra ce qu'il vaut, hein, au regard des documents qui ont pu être découverts depuis. Donc ça, par exemple, on a découvert un texte d'Aristote qui s'appelle « La Constitution des Athéniens », qui est un texte qu'on n'avait pas du tout découvert à l'époque de Marx, hein, et dans lequel Aristote explique exactement quels étaient les principes de cette démocratie. Donc ça, c'est un point. Et puis, la deuxième hypothèse, c'est une hypothèse anglo-saxonne d'un auteur qui s'appelle Owen, et qui dit, finalement, la démocratie, c'est grâce au commerce, le doux commerce, comme dit Montesquieu. C'est-à-dire que c'est le commerce qui a rendu possible la démocratie. Alors, on verra aussi ce qu'il en est de ce point de vue-là. Est-ce que c'est ça qui a rendu possible la démocratie? Troisième hypothèse, est-ce que ce serait l'Empire? L'Empire athénien. On a prétendu que ce que les Athéniens appelaient des clérouquis, c'est-à-dire envoyer des gens créer des cités quand le nombre de citoyens était trop important pour Athènes même, ou pour l'Attique même, on envoyait des gens dans d'autres territoires, on appelait ça clérouquis, et donc certains ont prétendu que c'était l'Empire athénien, en particulier l'Empire maritime, qui avait rendu possible la démocratie. Ça, c'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement faux en passant par une médiation qui est la question... Qui est-ce qui a permis l'Empire maritime athénien? Réponse, les rameurs. Et ça, les rameurs, on va voir au fur et à mesure à quel point ça a été indispensable pour créer la démocratie. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour dire mon propos, hein, aujourd'hui. Alors, maintenant, voilà. Mafalda est en train de lire dans un dictionnaire la définition de la démocratie. Elle voit... Démocratie du grec démos, peuple, et kratos, autorité. Donc elle dit système de gouvernement où c'est le peuple qui exerce la souveraineté. Je traduis, la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et vous voyez l'effet que ça produit sur Mafalda? Elle en rit tellement qu'elle ne peut même pas dîner. Et même quand elle va se coucher, ça l'empêche de dormir. Ce que Simone Veil appelait une sinistre rigolade. Simone Veil, la philosophe. Hein. Alors, ça, c'est pour présenter un peu ce qu'est la démocratie pour nous. Donc, tu passes. La démocratie est-elle digne de son origine grecque? Alors, je pars de ce que Mafalda avait découvert dans son dictionnaire. Le mot démos, voudrait dire le peuple. Mais en fait, il y a beaucoup de mots en grec à l'époque, pour dire le peuple. Par exemple, les nombreux, oi polloi, les vilains, je vois plus rien là.
Attends, ne t'inquiète pas. C'est exprès parce que je m'approche là.
Ah bon, c'est gentil, mais je peux m'approcher, moi.
Ah, mais bon,
merci. Les vilains, ça s'appelle les Keironas, la racaille, ça s'appelle Poneroi, et la populace, ça s'appelle Oklos. Et vous voyez tout de suite... Un des reproches qu'on a fait à la démocratie quand on a parlé de démagogie, c'est-à-dire le peuple n'est pas digne de la démocratie. Parce qu'attention, le peuple ça peut être les nombreux, les vilains, la racaille, la populace. Et d'ailleurs, à l'époque de la démocratie, beaucoup l'ont critiqué, en particulier les philosophes, les auteurs de théâtre, les historiens ont critiqué la démocratie, précisément en disant que la multitude... n'était pas capable de prendre les bonnes décisions. Et ça, on va voir dans l'histoire de la démocratie à quel point c'est étonnant, à quel point cette racaille a été capable de prendre des décisions d'une lucidité absolument exceptionnelle, dans des moments extrêmement difficiles, les guerres médiques d'abord, puis la guerre du Péloponnèse. On verra ça. Donc, ça, c'est Démos, le peuple. C'est pas facile de dire quel peuple, quand on dit que les noms pour désigner le peuple sont multiples. Tandis que les riches aussi ont plusieurs noms. Par exemple, les méritants, Krestoi, ceux qui ont le mérite, les meilleurs, Beltistoi, les puissants, Dunatoi, les notables, et les bien-nés. Les bien-nés s'appellent Genaioi. Et on verra comment ces bien-nés qui constituaient des grandes familles, ce qu'on appellerait des grandes familles, par exemple les Alcméonides ou les Simonides, qui étaient les fils d'eux, hein, comment au début la démocratie est obligée de les appeler. Alors, je ne dirais pas au pouvoir, parce qu'il ne s'agissait pas exactement de pouvoir, mais la démocratie était obligée de se coltiner avec ces grands-là, et quelles sont les institutions qu'elle a inventées pour, en quelque sorte, les mettre à la porte. Donc, on va voir ça. Donc, vous voyez que entre ceux que j'ai appelés les mauvais, et ceux qu'on vient d'appeler les méritants, entre les deux, il y a ce que les anciens Grecs appellent agon, c'est-à-dire une tension agonistique, comme on dit, c'est-à-dire une tension assez suffisamment importante. Ce qui est très curieux, c'est que, alors, ça c'est... Castoriadis ne dit pas la même chose, mais enfin, on pense que les distances des fortunes allaient de 1 à 3, comparé avec ce qui se passe aujourd'hui. Et pourtant, les fortunes allaient de 1 à 3, et pourtant, la tension était majeure entre les riches et les pauvres. On y reviendra en conclusion, parce que c'est déterminant pour le moment démocratique. Et enfin, et déjà, cet écart de 1 à 3 était considéré comme un scandale. La démocratie, donc, athénienne, c'est une démocratie qui est... Alors, c'est pas le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, la démocratie à l'origine. La démocratie, c'est le gouvernement contre les riches. C'est ça, la démocratie. C'est le gouvernement contre les riches. Et d'ailleurs, on va le voir dans les institutions. Il n'y avait pas d'impôts dans cette démocratie. Il n'y avait pas d'impôts. Simplement, il y avait des charges, quand même. Alors, les charges, elles étaient imputées aux riches. C'est-à-dire que ce qu'on appelait les liturgies, c'est-à-dire le fait de prendre en charge toutes les fêtes. Il y avait beaucoup de fêtes, des fêtes magistrales, des fêtes magnifiques. Vous connaissez la procession des Panathénées, c'est la procession des grandes fêtes rituelles qui avaient lieu tous les 4 ans. Les Dionysies, qui étaient des grandes fêtes aussi, avaient lieu tous les ans. Il faut quand même que vous vous rendiez compte que dans les grandes fêtes, c'était le seul moment où on mangeait du bœuf. Mais pour nourrir une population pareille, on en tuait 5 des bœufs. C'était une fête énorme avec des sacrifices, et les sacrifices étaient de la viande qui était distribuée aux gens. Hein. Et puis alors on tissait la robe de la déesse avec des fils d'or. Enfin, je veux dire, il y avait des frais énormes pour les liturgies. Et ça, c'est les riches qui en étaient chargés, les liturgies, et puis la trihiérarchie. C'est-à-dire le fait de prendre en charge les bateaux qui allaient servir pour défendre Athènes, par exemple, contre les Perses, hein, de la flotte de guerre. La flotte de guerre était prise en charge donc par la cité et par les riches de la cité. Et il y a eu, à un moment, je crois que c'est sous Périclès, la question a été posée, est-ce qu'on doit construire 2 bateaux de guerre ou monter une tragédie ? La tragédie de Sophocle. Ben, le peuple a hésité, et finalement on veut mieux la tragédie quand même, hein. Mais c'était le même prix. Donc vous imaginez combien... Parce que les gens répétaient pendant 1 an, ils arrêtaient leur travail, donc il fallait les payer. Enfin bref, et tout ça, les bateaux de guerre, les rameurs sur les bateaux de guerre qui étaient payés, sous Périclès, pas avant, hein, mais les rameurs sur les bateaux de guerre qui ont été payés à partir de Périclès, ils étaient payés par les riches. Et tout ça, c'était les riches qui payaient. Mais les riches, ils étaient fiers de payer tout ça. Par exemple, Simon, qu'ils étaient concurrents, mais enfin bref, c'était sous Périclès. Simon, qui était très très riche, il avait des possessions de terre, et il avait fait détruire toutes les limites pour que les gens puissent venir glaner et ramasser les fruits et tout ce qu'ils pouvaient trouver pour se nourrir. Je veux dire que c'était un... Je ne veux pas dire que c'était de la générosité. Je veux dire que c'était un titre de gloire. C'était un titre de gloire d'être reconnu en étant celui qui a payé la grande fête, celui qui laisse glaner sur ses terres, celui qui a... On s'enorgueillissait de ça. On ne cachait pas le fait qu'on avait des actions dans telle ou telle société. Ça, ce n'était pas caché. Il n'y avait pas besoin de Paradise Papers. On n'a pas besoin. On le disait au vu et au su parce que ça servait à tout le monde. C'est pas qu'on attendait des retombées de ces gens-là. On n'était pas en train de se dire peut-être que si les riches deviennent de plus en plus riches, il y aura peut-être quelques miettes à glaner. C'était, l'état d'esprit, c'était ils nous doivent. Ils nous doivent les fêtes, ils nous doivent les bateaux, ils nous doivent ça, et s'ils le font, eh bien, ils sont dignes de ce qu'ils sont. Bon, tout ça pour dire que c'est donc une démocratie où le gouvernement est contre les riches, on les fait payer les riches. Et puis, je vous parlais des institutions qui permettaient de demander aux riches de cesser d'avoir l'aura qui fait que, qu'on le veuille ou non, quelque part on a du respect pour eux. Voici les deux institutions qui étaient mises en place. D'abord, l'ostracisme. C'est-à-dire, alors, on le verra quand on verra des ostracas tout à l'heure, parce que sur ce magnifique PowerPoint, on a des images qui vont nous être très utiles là-dessus, et vous verrez que je n'invente rien. Donc, quand quelqu'un, par exemple, un général, revient vainqueur d'une bataille, il y a bien des chances, c'est ce que craignait Robespierre en disant « Méfiez-vous, si vous faites la guerre, vous aurez des généraux. Et si vous avez des généraux, ils deviendront autre chose que Bonaparte. » C'est ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut craindre les généraux quand on tient à la démocratie. Donc, je ne parle pas de l'Égypte et de rien, hein, là, quand je dis ça. Donc, il faut craindre les généraux. Et donc, quand un général revient vainqueur, il a beaucoup de... On a beaucoup de respect pour lui. Plus on a de respect pour lui, plus il faut ouvrir une question sur la place publique, et on ouvre cette question, on dit, est-ce qu'il est nécessaire de voter un ostracisme? Est-ce que vous pensez qu'il est suffisamment célèbre et important pour qu'on vote un ostracisme? Si la réponse est oui, on fait un second vote. Mais ce second vote n'est pas à main levée. Ce second vote est secret, et c'est la raison pour laquelle on vote sur un petit tesson de poterie où on écrit le nom de la personne qui doit être ostracisée. Et cette personne, quand le vote est complet et majoritaire, et qu'on a décidé qu'on allait l'ostraciser, on prie très poliment cette personne, on la raccompagne aux frontières, on la prie très poliment de ne pas revenir pendant 10 ans. Mais on ne lui retire ni ses biens, ni on lui permet de partir avec sa famille, et dans 10 ans, il pourra revenir. Mais pendant 10 ans, on n'entendra plus parler de lui. Dans une civilisation dans laquelle il n'existe pas de médias, dans une civilisation dans laquelle, pour être respecté et pour avoir un pouvoir politique, il faut qu'on vous voie en personne, le fait de partir pendant 10 ans, c'est tout à fait salutaire pour cesser d'avoir des ambitions. Donc ça, c'est l'ostracisme. Et la seconde, il y en a certainement beaucoup d'autres, hein, mais la seconde que je vois, c'est le serment des hoplites. Les hoplites, c'est le nom des citoyens quand ils partent pour la guerre. Il n'y a pas d'armée, hein, à Athènes à l'époque, il n'y a pas d'armée. Ce sont les citoyens qui font la guerre, et pour ça, ils se payent ce qu'on appelle la panoplie. Ça vient de là. La panoplie, c'est ce que les hoplites se payent, c'est-à-dire un bouclier, des jambières, un casque. Et donc, les hoplites, quand ils ont revêtu cet habillement, ils prêtent un serment. Et dans ce serment, il est dit, je jure que si jamais un tyran se présentait, j'essaierai de le tuer, et si je n'y arrive pas, je porterai un toast à celui qui arriverait à le tuer, et celui-là, fût-il métèque ou esclave, il vivra toute sa vie aux Britannées. Donc, vous voyez, ça c'est le serment des hoplites. C'est-à-dire, maintenant qu'on a des armes, on peut se défendre, et d'abord, avant d'aller porter la guerre à un ennemi, comme l'ennemi perse ou l'ennemi spartiate, avant, On se garantit que il y a le pire ennemi, c'est le tyran. Donc tout ça pour dire que ça vous donne déjà une petite idée. Alors, pour comparer ça, on va passer à l'image... Ah, et l'image précédente.
Oui, on va y arriver.
Tu passes tout de suite à Dracon, alors ?
Tu vas,
je veux bien.
Non, parce qu'avant, tu avais une image avec les références de la démocratie dans le monde. Ah, ben là, voilà, ouais. Alors ça, c'était pour comparer, pour vous dire que... Alors donc, dans la démocratie, elle n'existe que à Athènes. C'est-à-dire, c'est minuscule. Et que pendant 2 siècles, c'est tout petit. Tandis que maintenant... Alors donc, hein, c'est vraiment presque rien. Et alors... Tandis qu'aujourd'hui, vous voyez, la démocratie, c'est magnifique, il y en a partout. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, de la démocratie, il y en a en Tunisie, il y en a en Turquie, il y en a... Vous voyez, la démocratie, c'est nous. On a de la démocratie partout, et en fait, point d'interrogation, tandis qu'à Athènes, il n'y en a que dans un seul endroit, mais là, il n'y a pas de point d'interrogation. Et je voulais juste vous faire remarquer cette opposition. Oui, il y a de... Alors, je sais pas, je pense que les fraudes... Le Honduras, c'est pas marqué, mais les fraudes en Honduras, les fraudes en Tunisie, les fraudes en Pologne... Même, il y a même... Alors, ceci dit, il y en a qui sont quand même un peu honnêtes. Ils disent quand même... On va d'abord s'appeler République. Mais enfin, on va préciser, par exemple, au Congo, que c'est une République démocratique. Parce qu'il pourrait y avoir une République pas démocratique. Ah ben oui, par exemple à Rome. À Rome, il y a eu une république qui n'était pas du tout démocratique, enfin pas tout le temps, mais qui à un moment est devenue complètement une oligarchie, et après complètement un empire. Mais ça continuait à s'appeler république. Donc tout ça pour dire que la démocratie, c'est pas absolument évident. Alors maintenant, je veux bien qu'on passe à Dracon. Le premier, alors ça se passe aux environs de 621 avant Jésus-Christ, et là on voit à Athènes un premier code de loi qui va, alors vous savez, quand on parle d'un système, ouvrez les guillemets, draconien, on veut dire que c'est super sévère, mais ce que ça voulait dire la fin de la vendetta, c'est-à-dire la fin des grandes familles qui vengent ceux d'entre eux qui ont été outragés jusqu'à la 6e génération. Alors, pourquoi ? Parce que avec Dracon, tout crime atteint la communauté. Au lieu d'atteindre une personne particulière, tout crime, j'appelle crime au sens large des délits graves, atteint la communauté. C'est donc la communauté qui prend la charge de la peine. Et c'est pourquoi, pour Dracon, la justice est proportionnelle au délit et non pas au délictueux. Par exemple, un meurtre est puni de mort, quel que soit celui qui l'a commis. Une malversation est punie d'une amende, quel que soit celui qui l'a commis. Autrement dit, on tient compte de la faute. C'est pour ça que je dis, le système de Dracon est intéressant à prendre en considération. Mais ce n'est pas encore la démocratie, c'est encore les grandes familles, hein, à ce moment-là. Simplement, les grandes familles commencent on commence à enlever aux grandes familles le droit de se venger. Ensuite, alors, on passe à Solon. Alors, Solon, ça, c'est moins 594. Les dates du moment où l'influence de la personne en statut, là, a été la plus importante, au moment de son influence. Parce que sur les dates, on n'est pas très, 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 très précis, hein, là. Donc, Solon, en tout cas, Solon est un législateur extrêmement important parce qu'il a fait quelque chose qui s'appelle la séarcheia, c'est-à-dire la levée de la dette. Il a supprimé, d'un coup d'un seul, il a supprimé les dettes. Or, tous les propriétaires terriens avaient des tenanciers qui avaient des dettes pour eux. Tous ceux qui travaillaient la terre étaient endettés. Et à cause de ça, la terre était mal travaillée. À partir du moment où il y a eu la suppression des dettes, il y a eu un bond économique incroyable de la Grèce. Faudrait rappeler Solon à quelques personnes grecques. Parce que c'est le moment où économiquement, la production d'olives, la fabrication de céramique, tout ça a subi je ne peux pas dire subi, a eu un développement magistral à partir du moment où abolition de l'esclavage pour dette. Parce que quand on avait des dettes, on ne pouvait plus ni quitter la terre, ni s'émanciper de celui à qui on devait les dettes. Donc ça, c'est très important selon donc la Searskeia, c'est-à-dire la levée, ce qu'on appelle la levée du fardeau, c'est-à-dire l'annulation des dettes. Donc d'une part. Alors ça s'est manifesté d'une façon très très précise, c'est-à-dire que ceux qui avaient des dettes sont allés arracher les bornes qui indiquaient jusqu'où ils ne devaient pas aller. Mais ohoy, ils ont arraché les bornes et ils se sont sentis, ouvrez les guillemets, libres. On verra que la liberté est un des fondements idéologiques, avec l'égalité d'ailleurs, un des fondements idéologiques de cette démocratie, un fondement, comment dire, radical. Simplement, ce n'est pas la liberté telle que nous la concevons, nous, qui est passée par le libéralisme. Ce n'est pas cette liberté-là. La liberté ne se conçoit que dans la cité. Pourquoi ? Parce que dans la cité, vous allez le voir tout à l'heure, on peut devenir prytane, et dans sa vie, c'est bien rare qu'on ne le soit pas, c'est-à-dire celui qui met aux voix les propositions que tout le monde va voter. Hein. Donc on a un pouvoir politique extraordinaire quand on est citoyen, mais en même temps, si jamais on était vaincu par les Perses ou plus tard dans la guerre du Péloponnèse, si on est vaincu, on devient esclave. Donc le fait de ne pas être esclave dépend de la cité. Donc on ne peut pas opposer la cité, on ne peut pas opposer la cité et la liberté. Comme nous, on a tendance à opposer l'État et la liberté individuelle. Ce n'est pas la même opposition. D'abord, et ça c'est un sociologue danois extraordinaire qui s'appelle Hansen, qui a fait une étude très précise et qui montre très bien qu'on ne peut pas considérer que la cité est un État. D'abord, il n'a pas de pouvoir régalien, et ensuite, il ne fonctionne pas avec une bureaucratie. Donc la cité n'est pas un État. L'État a des pouvoirs régaliens qui sont de plus en plus importants, comme vous ne pouvez pas ne pas l'avoir remarqué, tandis que, et un pouvoir bureaucratique de même. Et ça, et aussi une collusion avec le pouvoir économique. Ces trois éléments-là n'existent pas dans la cité athénienne. Donc on ne peut pas dire que c'est un État. Et vous voyez, la liberté, ce n'est pas de défendre l'individu contre la puissance collective de l'État. La liberté, c'est le fait de se trouver dans une cité qui défend votre liberté, puisque c'est nous les citoyens qui la défendons. Puisque c'est nous qui prenons les armes. C'est ça les hoplites. Hein. Donc, ce n'est pas le même sens du mot liberté. Quant au mot égalité, il n'a pas du tout non plus le même sens qu'il a aujourd'hui. Il a un sens essentiellement et exclusivement politique. Alors, vous allez me dire, et les esclaves, et les métèques, et les femmes. Vous allez me dire ça. Mais peut-être qu'on va attendre que vous me le disiez tout à l'heure. Parce que je vais continuer quand même là, parce que Solon n'a pas fait que ça. Il a fait aussi autre chose. Il a classé les citoyens selon un système que j'appelle peut-être, j'ai cherché un mot, modulable, parce que ce classement n'était pas définitif, étant donné que c'est un classement qui dépend de la richesse dont on dépend, de la richesse dont on peut faire état à un moment donné de sa vie. Les pentacosiomédines sont ceux qui ont, je ne sais plus, des récoltes énormes. Les hypèses sont ceux qui peuvent se permettre d'avoir un cheval et de l'entretenir. Les euguites sont ceux qui peuvent se permettre d'avoir un bœuf et de l'entretenir. Et les têtes sont ceux qui n'ont rien. Et donc, qui ont leurs bras. C'est tout, les têtes. Donc, ça, il est juste. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça remplace la généalogie des grandes familles. C'est-à-dire que jusqu'alors, on dépendait de sa famille. Tandis que maintenant, on dépend du résultat pas seulement de son travail, mais de ce qu'on est capable de produire. Voilà, c'est la production qui devient déterminante. Et quand je dis que c'est modulable, je veux dire qu'à la suite d'une mauvaise récolte, un hypèse peut ne plus pouvoir nourrir son cheval et se retrouver tête. Hein, donc c'est possible. Autrement dit, tandis que quand on était né Acréméonide ou Simonide, même si on devenait pauvre, on était toujours d'une grande famille. Donc vous voyez, c'est important aussi ça qu'a introduit Solon à ce moment-là. Ensuite, ça c'est... Ah oui. Oui, mais là, il aurait fallu passer au territoire d'Athènes. Voilà, merci beaucoup. Parce que, donc, oui, alors, encore une chose pour Solon, encore une chose. Toujours cette lutte hein, entre les riches et les pauvres, qui est cette agone, là, cette tension qui est toujours présente, Solon dit, celui qui, dans une opposition de ce type, ne prendra pas les armes pour défendre soit les pauvres, soit les riches, hein, là où ils se sont, celui-là sera privé de ses droits civiques. Ça s'appelle l'atimie. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être neutre. Ben, ça, c'est aussi une loi de Solon. Mais ensuite, après Solon, il y a eu un moment de flottement, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec certains d'entre vous, et voilà un homme nouveau qui s'appelle Pisistrate, qui arrive sur l'Agora en ayant fait blesser tous ceux qui l'accompagnent, et lui-même en s'étant déchiré les vêtements, arraché de la peau, et il arrive, il dit « au secours, j'ai été attaqué, est-ce que vous pouvez me permettre de me défendre ?» Alors les citoyens disent « oui, oui, il faut qu'il puisse se défendre celui-là, on va déléguer autour de lui 500 porte-gourdins qui vont le défendre. » Et avec ces 500 porte-gourdins, Pisistrate a pris le pouvoir, il est devenu tyran. Pisistrate. Donc Pisistrate est devenu tyran, mais après il a été ostracisé, vous en faites pas. Mais après avoir été ostracisé, après 10 ans, il est revenu quand même. Il est revenu après ces 10 ans, monté sur un char avec une petite boutiquière des faubourgs qu'il avait déguisée en Athéna. Et tout le monde a dit oh, magnifique, Athéna le protège. De nouveau, il est revenu, ce Pisistrate. Enfin bon, là, il vient d'arriver, il a le pouvoir et il l'a gardé pendant une quinzaine d'années. Mais ensuite, lui ont succédé, il a voulu que lui succèdent ses deux fils, qui s'appelaient Hipparque et Hippias. Et là, il y a eu alors deux héros qu'on va voir tout à l'heure, deux héros qui s'appellent donc Harmodios et Aristogiton, qui ont fait un complot pour assassiner le tyran. Malheureusement, ils n'ont pas pu les assassiner tous les deux. Ils ont assassiné que Hipparque. Et ils ont été, bien sûr, l'un d'eux a été tué sur le coup et l'autre a été tué peu après. Mais ils sont devenus par la suite hein, des héros de la démocratie. Mais pour le moment, ils ont été éradiqués par les tenants d'Hippias, qui a continué avec un pouvoir encore pire pendant 5 ans, Hippias. Donc ça, c'est un moment essentiel. Parce que Aristogiton et Harmodios sont devenus des héros nationaux extraordinaires. Ils ont été respectés pendant toute l'histoire de la démocratie. Oui, oui, mais enfin, oui. Je dis ça parce que les historiens grecs disent en fait il y a une sombre histoire derrière. En réalité, ils étaient amants et Harmodios n'avait pas plu, ou plutôt Hippias avait tenté de séduire Harmodios, et Aristogiton, pour se venger, avait ridiculisé la sœur d'Hippias. Donc il y a une sombre histoire derrière, enfin peu importe, parce que personne ne le savait et ils ont été considérés comme des héros. Ils ont eu un culte comme s'ils étaient des dieux pendant toute la suite de l'histoire de la démocratie. C'est pour dire que celui qui tue le tyran est considéré véritablement comme celui à qui la cité doit énormément, doit beaucoup. Et quand Brutus a frappé César, il s'est souvenu de ça en disant « Pereat tyrannos », c'est-à-dire « que périsse le tyran », et c'est la traduction latine de la phrase d'Aristogiton quand il a frappé Hipparque. Hein, donc ça c'est, vous voyez, ça s'est continué comme... Et pendant la Révolution française, l'idée de lutter contre le tyran, on a repris ce culte au moment de la Révolution française, plus ou moins, parce que le seul qui connaissait bien la démocratie athénienne, enfin, tout le monde, ils ont confondu avec Rome, donc je n'insiste pas trop là-dessus. Mais en tout cas, c'est resté comme un phare dans l'histoire de la démocratie. Alors, Ensuite, alors après, c'est, voilà, après, oui.
Oui.
Oui, oui, c'est le territoire d'Athènes. Parce que, attends, c'est avant Clisthène, le territoire d'Athènes.
Oui.
Voilà, parce que là, vous voyez que il y a des gens qui habitent la côte. On les appelle les Paraliens. Ce sont les artisans. Ce sont ceux qui font du commerce maritime. Tout ça, c'est le territoire de l'Attique. Hein. Tous les gens qui habitent à Marathon, au Pirée, à côté du Mont-Laurion, où il y a des mines d'argent très importantes, ou à Eleusis, tous ces gens-là ont les mêmes droits. Tous sont les citoyens, exactement comme les Athéniens, de souche. Bref, ils ont tous exactement les mêmes droits. Et quand on va faire un vote important pour prendre une décision, on attend qu'ils arrivent à Athènes. Donc c'est pour dire que Athènes, ce n'est pas que la ville, hein, c'est toute l'Attique. Donc ce que je disais là, c'est qu'il y a quand même ceux qui habitent la côte, les Paraliens, ceux qui habitent les collines, vous voyez, le mont Parnasse, c'est quand même c'est pas vraiment une colline, c'est une montagne, ceux qui habitent les collines qu'on appelle les Diacriens, ce sont des paysans pauvres en général, et puis ceux qui habitent la plaine, ceux-là, les Péliens, ce sont les aristocrates terriens. Donc, ces gens-là ont des intérêts divergents. Comment construire une unité avec des intérêts divergents? La question se pose. Et c'est une question très importante. Parce que, quand il s'agit de vote, chacun vote en fonction de ses intérêts. Est-ce que la démocratie, c'est le consensus de tous les intérêts divergents? C'est-à-dire le plus petit commun dénominateur. Est-ce que c'est ça? Réponse de Clisthène. On voit Clisthène. Voilà. Réponse de Clisthène. Alors, Clisthène, que fait Clisthène? Eh bien, Clisthène, il va inventer un système dans lequel il y aura ce qu'il appelle le système des tritis. Dans ce système, il va découper les... Il va construire un système électoral en regroupant des gens de la plaine, des gens des collines et des gens de la côte dans chaque district. De sorte que dans chacune des unités, les DEM, ce qu'on appelle les DEM, hein, on pourrait dire les communautés de communes, si vous voulez, hein, dans chaque DEM, il va y avoir des rassemblements de gens qui viennent de la plaine, de la colline et de la côte. Et ces gens-là, on va parmi eux tirer au sort des gens qui vont ensuite aller... je ne sais pas si on peut dire encore que c'est des représentants. Enfin, ces gens-là, on va le voir avec le système. Mais bref, il a constitué un système de comptage électoral qui empêchait les intérêts particuliers de l'emporter. Et il a généralisé le système du tirage au sort qui n'existait que pour la justice, que pour les liés. Comme chez nous, il n'existe pour les jurys. Là, il l'a généralisé au système politique. Clisthène. Et enfin, il a imposé la responsabilité personnelle des magistrats. On va le voir là dans son système. On voit le système électoral maintenant, le système général de... Ah ben ça c'est que les scènes plus jeunes, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil du PowerPoint que j'aime beaucoup parce que Clisthène n'a pas toujours été vieux. C'est vrai, les Grecs, on a toujours l'habitude de les voir sous les figures de barbus assez âgés. Mais bon, alors, à l'époque de Clisthène, alors d'accord, on va faire ça. J'aurais aimé qu'on voit le système... C'est pas ça. J'aurais aimé qu'on le voit parce que ça aurait été plus précis. Voilà, merci beaucoup. Alors ça, il faut le lire de bas en haut. C'est-à-dire, vous voyez les 100 DEM d'origine, c'est-à-dire pour les communautés de communes. Hein, bon. Alors lui, il a inventé le système décimal, qui n'existait pas. Hein, et alors, de ce DEM, il y a des tritis de la ville, de la côte et de l'intérieur. Vous voyez ces tritis. Ces tritis, on va tirer de chacune de ces tritis, on va en tirer qui vont constituer les tribus. Voilà. Qui vont constituer les tribus. Les tribus, on tire au sort dans les tritis, on tire au sort autant de gens dans chaque tritis pour constituer les tribus. Bon. Les tribus constituent ce qu'on appelle l'ecclésia. L'ecclésia, c'est l'assemblée. Hein? Voilà, c'est l'assemblée. C'est l'Assemblée qui propose et qui vote les décisions, qui vont aller à Athènes s'occuper de voter et de prendre les décisions. Alors on les tire au sort selon un système de volontariat. C'est-à-dire c'est seulement ceux qui lèvent la main, ceux qui disent « moi je veux bien faire quelque chose pour ma cité ». C'est la phrase type. Hein. Et alors ceux-là qui sont tirés au sort, plus tard on leur paiera leur journée de travail, hein, mais pour le moment, ceux-là, ils vont à Athènes et ils participent à l'Assemblée. Et ils prennent des décisions en assemblée, ceux-là. Bon. Et parmi eux, on va tirer ce qu'on appelle les bouleutes. Les bouleutes constituent la boulet, c'est-à-dire que la boulet, c'est une sorte de commission qui prépare les questions que l'on va poser publiquement. Donc, qui fait un ordre d'importance des questions qui doivent être posées. Certaines sont plus urgentes que d'autres, certaines demandent des informations supplémentaires, par exemple, on fait venir publiquement des ambassadeurs qui représentent l'intérêt des cités qui demandent d'être relevées, des tribus qui paient à Athènes, des choses comme ça. Donc, c'est la boulet qui prépare ça. Et la boulet, les bouleutes, sont eux-mêmes tirés au sort parmi les gens de l'Ecclésia. Ensuite, alors, à côté, vous voyez l'Hélié, ça c'est le tribunal pour la justice, l'Hélié, hein. Ce sont des tribunaux qui jugent les délits, qui sont aussi tirés au sort, et les magistrats, qui sont aussi tirés au sort parmi les bouleutes. Ils sont tirés au sort, là aussi, selon un système de volontariat. Qu'est-ce qu'on appelle magistrat? Eh bien, les magistrats, vous les voyez, tirés au sort annuellement, sont les archontes. Alors, les archontes, ce sont ceux qui s'occupent de... qui s'occupent, par exemple, de régler les... de régler l'organisation de, par exemple, de qu'est-ce qu'on va faire de l'argent qu'on a tiré des mines du Lorient. À quoi est-ce qu'on va attribuer cet argent? Bon, ils s'occupent de questions de budget, ils s'occupent des questions d'administration, ils s'occupent de tout ça. Le roi, l'archonte éponyme, alors ça, c'est des personnes qui avaient toujours sous clistène un rôle de représentation, et qui étaient, eux, alors, c'est un tort de les avoir mis tirés au sort annuellement, ils sont tirés au sort, mais pour un avis. Ils sont tirés au sort à vie, et en général, ceux qui se proposaient étaient les descendants des grandes familles. Et ils constituent un corps qu'on appelle l'aréopage. Ça, c'est pas écrit là, mais c'est vrai pour l'archonte éponyme, et pour d'autres archontes avec lui, parce qu'ils étaient une dizaine, eux aussi. Ensuite, le polémarque, c'est celui qui s'occupe des affaires de la guerre, qui recrute, qui donne la panoplie à ceux qui n'auraient pas eu assez d'argent pour le faire, qui s'occupe de ces choses-là. Ensuite, les thesmothètes, qui s'occupent de regarder les lois, de savoir si elles sont justes, si elles fonctionnent bien. Le secrétaire, parce que tout ce qui a été décidé est pris en note et tout le monde peut consulter les archives. Donc le secrétaire, qui a beaucoup de monde autour de lui, parce qu'il peut prendre beaucoup de notes. Et ensuite, des magistratures spécialisées qui s'occupent des questions particulières, par exemple, surveiller les marchés et surveiller que les poids et mesures soient bien respectés, ces choses-là. Bon, élus annuellement, alors ceux-là sont élus, ils ne sont pas tirés au sort. Alors ceux-là, il y a les stratèges, on vous les a détaillés. Mais en fait, il y a 10 stratèges, et puis, 10 stratèges, et puis il y a les trésoriers et les fonds. Alors, les trésoriers, pourquoi est-ce qu'il est élu? Ben, il est élu parce qu'il est responsable sur sa fortune personnelle. Alors bien sûr qu'il faut élire quelqu'un de riche. On ne peut pas tirer au sort, parce que si on tirait au sort un trésorier pauvre, il ne pourrait pas en répondre sur sa fortune personnelle. Donc lui, il est élu. Puis il y en a un autre qu'on ne vous a pas marqué là, le fontainier. Parce que le fontainier, il est élu, parce que c'est extrêmement important que la cité ait toujours soit toujours alimentée en eau. Et celui-là, il faut qu'il soit vraiment très, très, un technicien très très pointu. Alors, vous allez me dire, ce système, comment va-t-il fonctionner? Étant donné que des gens tirés au sort peuvent très bien être des incapables. Est-ce que ceux qui sont élus sont moins incapables? Enfin, c'est une question. Mais bon, en tout cas, pour répondre pour Athènes, d'abord, c'est toujours collégial. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fonction qui relève d'une personne toute seule. Ensuite, il y a un examen qu'on appelle docimasie. Un examen pour savoir si la personne qui a été tirée au sort n'a pas eu de condamnation, ou n'a pas été malhonnête, ou n'a pas... et si il est vraiment motivé pour faire ça. Bon. Donc, et ensuite, il y a ce qu'on appelle la restitution de compte. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, il doit, devant l'Ecclésia, rendre compte de ce qu'il a fait, sur tous les plans,
pas seulement économique. Il doit rendre compte de tout ce qu'il a fait pendant un an. Donc voilà, et enfin, et ça, c'est un petit livre de Paulin Ismar qui est sorti l'année dernière, très intéressant, qui s'appelle « La démocratie contre les experts », où il explique que, en fait, les professionnels, ce sont les esclaves. C'est-à-dire qu'il y a des esclaves publics qui n'appartiennent à personne, puisqu'ils sont esclaves publics, et eux, ce sont les secrétaires. Et c'est eux qui prennent tout en note, et c'est eux qui assistent les magistrats qui ont été tirés au sort, qui leur expliquent comment on a fait l'année dernière, qui font le suivi, qui font... Et ceux-là sont très, très importants. Et je vous signale juste que si ce sont les esclaves qui font ce que nous appelons la bureaucratie, ben, il n'y aurait jamais eu Staline. Enfin, ce n'est pas pour dire vive les esclaves, mais c'est pour dire que c'est une fonction, qui, ça fonctionne de cette façon-là. Donc ça, c'est pour le fonctionnement. Ça c'est ce que Clisthène a mis en place, comment dire, brutalement, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça n'a pas mis 5 ans. Il a mis ça en place immédiatement, Clisthène. Bon, et puis alors, c'est quand même quelque chose qui est quand même vraiment très important. Vous allez me dire, comment est-ce que ça fonctionnait économiquement? Ben, ça fonctionnait parce que il y avait d'abord ce que je vous ai dit tout à l'heure, les liturgies et les triarchies des riches. Et puis, il y avait les tribus des cités alliées. Alors, les cités alliées, qu'est-ce que c'est? Après les guerres médiques, les cités se sont dit, il faut qu'on se défende contre les Perses. Donc, on va s'associer. Mais ceux qui ne pouvaient pas avoir d'armée se considéraient que l'armée athénienne les défendrait, ce qui était vrai d'ailleurs. Et donc, il fallait. Mais par contre, ils avaient une contribution, qu'on appelle un tribut, une contribution qui a constitué ce qu'on a appelé la Ligue de Délos. Celui qui avait quantifié ce que chacun devait apporter à la Ligue de Délos, il s'appelait Aristide, et il était tellement juste, on l'appelait Aristide le Juste. Il était tellement juste que pendant 15 ans, les cités alliées ne se sont pas plaintes. Elles ont commencé à se plaindre après. Mais là, pour le moment, parce qu'après ça a augmenté, le tribut a augmenté. Mais là, elles ne se sont pas plaintes. Et cet Aristide, figurez-vous qu'un jour, il arrive sur Apnix, qui était le lieu où se tenait l'Ecclésia, il arrive là, et puis il voit qu'on est en train de voter un ostracisme. Ah, il dit, ah ben ça, et on vote un ostracisme, et qui est-ce qui va être ostracisé? On lui dit, ah ben c'est... un certain Aristide. Ah, il dit. Ah, il prend un tesson et puis il écrit Aristide. Parce que ça voulait dire qu'il était devenu tellement, on disait tellement Aristide le Juste, il était tellement respecté, tellement aimé que peut-être il était en danger de prendre le pouvoir. Donc c'est bien. Ah, il était d'accord, Aristide. Il a mis Aristide. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il y avait aussi donc de l'argent qui provenait des tribus, des cités dites alliées. Ensuite, il y avait les propriétés publiques. Par exemple, les mines du Laurion étaient propriétés publiques. Donc, par exemple, c'est comme ça que Périclès plus tard construira le Parthénon, en partie grâce à l'argent des mines du Laurion. D'ailleurs, il y a eu un vote à l'Assemblée. Il y a eu un vote, vous allez le voir tout à l'heure, sous Périclès, il y a eu un vote. Est-ce que l'argent des mines du Laurion doit être distribué en partie égale à tous les citoyens, ou est-ce qu'on doit construire un bâtiment magnifique? Et tout le peuple a voté, on doit construire un bâtiment magnifique. Et c'est comme ça qu'existe le Parthénon. Bon, enfin, tout ça pour dire que ça, c'est donc les propriétés publiques. La mine est une propriété publique. La cité possède aussi quelques fermes qui rapportent. Ensuite, il y a les amendes de justice. Ensuite, il y a les taxes portuaires. Et tout ça, c'est la cité qui le gère. Donc, vous voyez, du point de vue économique, il n'y avait pas de... Pendant les deux siècles où la démocratie a fonctionné, si, il y a eu un moment difficile au moment de la peste d'Athènes. Mais ça, je vous en parlerai après. Pour le moment, la cité est à peu près prospère. Hein. Elle est devenue la cité la plus prospère de la Grèce antique. Et c'était la seule prospère et la seule démocratique. Ne parlons pas du commerce maritime. Pour le moment, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc ça c'est Clisthène quand même. Voilà. Donc, après, ah voilà, vous voyez, ça c'est un ostracisme. Et vous voyez dessus, c'est le nom de Thémistocle. Or, Thémistocle, il dit c'est. Thémistocle, c'est le stratège qui a permis de gagner la bataille de Salamine contre les Perses. Une bataille décisive, absolument extraordinaire, parce qu'il y a d'abord eu la bataille de Marathon, gagnée par Miltiade, et ensuite, par les Athéniens, hein, bien sûr, les Mandidas, bien sûr, les Spartiates disent qu'ils étaient là aussi, un petit peu trop tard, mais enfin bon, je ne sais pas s'il faut croire les Spartiates là-dessus. Et puis la seconde bataille navale, qui est une bataille décrite par Thucydide d'une façon extraordinaire, à la façon d'un grand film américain. Hein. Donc la bataille de Salamine, c'est-à-dire que les Athéniens n'avaient que des... Alors, on les verra tout à l'heure, les bateaux. Ils n'avaient que des petites trières avec trois rangs de rameurs, mais ils étaient très très bien préparés. Donc, les bateaux étaient très maniables, tandis que les Perses avaient d'immenses vaisseaux énormes, des vaisseaux qui étaient... Ils en avaient tellement que Thucydide dit, ça couvrait la mer comme un bouclier. C'était terrible, je sais plus combien, des milliers de bateaux. Et donc Thémistocle a envoyé un traître dans les rangs des Perses en leur disant, les Athéniens ont tellement peur de vous, enfin les Grecs en général, ont tellement peur de vous, ils ruissellent de sueur dans leurs armures et ils sont en train de fuir. Alors là, ça va être formidable pour vous parce que vous n'allez avoir en face de vous que des lâches. Et d'ailleurs, quelque temps avant, Darius avait fait venir un espion, et il lui avait demandé quel est le roi ? Quel est leur roi aux Athéniens qui nous ont vaincus à Marathon ? Quel est leur roi ? Et la réponse avait été, ils n'ont pas de roi. Ah, Darius a dit, ben ça c'est... Comme ça, ils vont, évidemment, ils vont, n'obéissant pas à un roi, ils vont être faciles à vaincre. Et l'autre avait ajouté, mais fais attention, ils ont quelque chose de pire qu'un roi. Ça s'appelle la loi. C'est quelque chose de bizarre à quoi ils obéissent. Et alors, bon, en tout cas, à ce moment-là, donc, bataille de Salamine, les Grecs avec leurs petits bateaux, les Athéniens avec leurs petits bateaux, font semblant de fuir dans la rade de Salamine, qui est, comme vous le savez, très très étroite. Et là, les immenses bateaux perses n'ont pas pu manœuvrer. Et les petits bateaux athéniens les ont tous cassés en deux, et ils ont obtenu une victoire tellement terrible que... C'est Xerxès, pardon, qui était là à ce moment-là. Xerxès, il s'était fait dresser un trône, et il se disait, les Athéniens survivants qui voudront aborder, on les assommera comme des thons dans les filets. Et là, c'est lui qui a été obligé de fuir, Xerxès. Il a fui comme un perdu, parce que... Donc, cette bataille de Salamine a été gagnée par Thémistocle, à la suite d'une ruse, mais bon. Il a été gagné, une autre ruse, mais il a été gagné par Thémistocle, et vous voyez, Thémistocle, il a été ostracisé. Justement parce qu'il est devenu trop célèbre, il avait trop d'aura, donc il est parti pendant 10 ans. Thémistocle, c'est ce qu'on voit là. Là, vous voyez que je ne vous raconte pas d'histoire, grâce à ça. Bon, en tout cas, on peut peut-être maintenant passer aux trières et aux hoplites, peut-être.
Oui.
Mais si tu les as. Le temps ah passe. Bon, non, pas ça.
Le temps passe.
Non, pas ça.
Oui, oui. Je le cherche.
Oui, d'accord. Alors.
Non, ça doit être... C'est pas avant, je crois pas. Voilà.
Oui, voilà. Alors ça, c'est les trières dont je viens de vous parler. Et c'est très important parce que il n'y a pas, donc je vous disais, il n'y a pas d'armée dans cette cité. Et il y a les hoplites qu'on va voir tout à l'heure, puisque tu les as aussi, les hoplites.
Oui.
Hein? Donc,
il te reste quelques minutes.
D'accord. On va voir les hoplites tout à l'heure. Ça, ce sont les rameurs. Alors, on les a naturellement, à la différence des Perses. Les rameurs ne sont pas des mercenaires, les rameurs ne sont pas des esclaves. Attention, ça c'est à Rome, hein, et c'est Vénure. Non, les rameurs sont des citoyens. Et c'est très important parce que ce sont quels citoyens? Ce sont ceux, vous vous rappelez, ceux qui n'ont rien, les têtes. Ce sont eux. Et ce sont eux qui ont gagné cette victoire extraordinaire. Donc vous pensez bien qu'après, sur la Pnyx, quand il a été question de prendre les décisions, c'est eux qui avaient la voix majoritaire, ils étaient très nombreux. Et en plus, ils étaient pleins de gloire. puisque c'est eux qui avaient permis de gagner cette bataille magnifique. Donc les têtes sont devenues très très importantes. Et si, tout à l'heure je vous avais dit qu'il y avait plusieurs hypothèses sur l'existence de la démocratie, je crois que Finlay le dit très clairement, et je crois qu'il a raison là-dessus, la démocratie on la doit aux têtes. C'est-à-dire c'est eux qui ont imposé le fait que ce soit, que la démocratie soit le gouvernement des pauvres. Parce que les têtes, ils étaient pauvres, justement. Ils n'avaient pas de terre. Dans une société qui vit sur l'agriculture, ne pas avoir de terre, c'est le pire. Bon, donc, alors, les têtes, donc, ils sont là, vous les voyez, et eux, alors, ils se sont habitués à manier les crières d'une façon extraordinaire, parce que Thémistocle avait interprété un oracle qui disait « Vous vous défendrez contre les Perses grâce à une barrière de bois. » Mais une barrière de bois avec des catapultes des Perses, des catapultes enflammées, ça ne vaut rien du tout. Et Thémistocle a dit « Non, non, la barrière de bois, c'est le bord du bateau, Tecos. C'est le bord du bateau. C'est ça, la barrière de bois. » Et donc, il a joué sur les mots, et grâce à ça, les têtes se sont habituées à manœuvrer leur trière d'une façon magnifique, et c'est comme ça qu'ils ont gagné la bataille de Salamine. Donc ça, c'est les têtes. Et Léoplite. Alors, Léoplite. Léoplite, on peut les voir.
Oui, on peut les voir. On peut les voir, les Léoplites. Les voilà.
Alors, voilà Léoplite. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que on a retrouvé des boucliers. Et on s'est étonné pendant longtemps de où est-ce qui était mis, la courroie pour tenir le bouclier. Et la courroie des boucliers était mise, on ne le voit pas bien sur cette image, mais la courroie des boucliers était mise de telle façon que chacun protège celui d'à côté. L'un protège l'autre. Autrement dit, on a une formation complètement solidaire chez les Hoplites. C'est absolument pas chacun pour soi, chacun protège celui d'à côté. Et c'est comme ça qu'ils sont invincibles, parce qu'ils font chacun protégeant l'autre, ils font une espèce de barrière. C'est la technique des Hoplites. Et c'est eux alors qui ont gagné la victoire de Marathon en moins 490. Là. Ils ont gagné la victoire de Marathon. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que il n'y a pas d'armée. Enfin, l'armée, c'est une milice de citoyens qui n'est mobilisée que dans une action décidée par le peuple. Il n'y a donc pas de magistrat qui puisse exercer une autorité comme s'il y aura à Rome. C'est-à-dire, à Rome, le magistrat qui gouverne la guerre, il a ce qu'on appelle l'imperium. C'est-à-dire qu'il est autorisé à exercer ce qu'on appelle la coercitio, même dans la vie civile. Ça, c'est à Rome. Je fais l'opposition pour que vous voyez que là, même pendant les opérations militaires, enfin, pas à Marathon, hein, mais pendant les opérations militaires, il y avait des assemblées où le peuple en armes, c'est-à-dire les Hoplites, décidait stratégiquement de la suite des opérations. Et le stratège donnait son avis, et c'est lui qui ensuite disait où est-ce qu'on allait déployer les forces, mais n'empêche que c'était décidé par tous. Et comme chacun savait, dans la stratégie décidée, quel était son rôle et pourquoi il le tenait, pour cette raison, contrairement à ce que croyait Darius, ils étaient beaucoup plus efficaces dans les opérations militaires. Donc pas d'armée et pas de police. Alors vous allez me dire, ben par exemple dans les représentations théâtrales où le public manifestait, parce que au théâtre, il y avait les métèques, les femmes, les esclaves, tout le monde était là et manifestait violemment. Dans les pièces de théâtre, on mangeait, on buvait, on se levait quand on n'était pas d'accord. Bref, comment est-ce qu'on faisait pour que ça se tienne à peu près, pour qu'on entende le texte? Eh bien, il y avait des archers scythes qui sont des esclaves. C'est-à-dire des gens qui font régner l'ordre, mais qui sont des esclaves. Donc, tout ça pour dire que il n'y a pas de miliciens qui soient considérés comme ayant... Si on leur parle mal, c'est outrage à magistrat. Ben, comment voulez-vous faire un outrage à un esclave? Donc ça n'existe pas, cette autorité-là. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'armée, pas de police dans cette démocratie qui a duré 2 siècles. Bon, alors c'est pas là-dessus. Maintenant, passons vite, parce que... à Périclès, parce que c'est vraiment très important, Périclès... Alors, je ne vais pas voir... Périclès, on l'a vu tout à l'heure.
Oui, on l'a vu tout à l'heure.
Alors bon, vous vous en souvenez de Périclès?
Oui.
Voilà. Périclès, j'ai pas le temps de vous lire le... Parce que Périclès a fait un discours qui a été pris en note, j'allais dire, par Thucydide, mais Thucydide l'a arrangé à sa manière, dans lequel, voici ce que dit Périclès. Notre constitution politique n'a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins. Loin d'imiter les autres, nous donnons l'exemple à suivre. Du fait que la cité est administrée dans l'intérêt d'une... dans l'intérêt de ceux qui ne sont pas une minorité. Notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui concerne les différents particuliers, l'égalité est assurée à tous par les lois. En ce qui concerne la participation à la vie publique, chacun obtient la considération en raison de son mérite et la classe à laquelle il appartient n'importe pas. Nul n'est gêné par la pauvreté, ni par l'obscurité de ses conditions sociales, s'il veut rendre des services à la cité, c'est-à-dire proposer une loi, ou proposer un décret, ou proposer une action à accomplir par la cité. C'est Périclès qui a inventé ce qu'on a appelé les mystophories, c'est-à-dire le fait de payer, le fait de donner l'équivalent d'une journée de travail à ceux qui viendront soit à l'ailier pour juger d'un délit, soit à l'assemblée pour décider de ce que doit faire la cité. Ceux qui viennent perdent une journée de travail. Et dans une société où, quand les moissons arrivent, il ne faut pas perdre une journée de travail. Donc, Périclès a décidé ça, c'est-à-dire que sur l'argent public, on dédommage ceux qui participent à la vie publique. Parce que Périclès dit aussi, celui qui ne participe pas à la vie publique est un citoyen inutile. C'est-à-dire, le nom de citoyen, il ne le mérite pas. Donc, venir participer aux décisions de l'Assemblée, alors, combien de personnes? Le quorum, alors les chiffres, les gens hésitent beaucoup, hein, mais on dit c'est à peu près 6 000, le quorum. À peu près 60 000 habitants, 6 000 personnes pour le quorum. Donc la PNIX, c'est un lieu d'où, quand on est à un endroit, on est entendu de partout. Et celui qui parle n'est pas, contrairement à ce qu'on voit sur cette image, alors attends que je la trouve. Bon, enfin, on la verra peut-être, hein, parce qu'on l'a... Voilà, sur cette image-là.
On y va.
Voilà, c'est juste après, juste avant ça.
Voilà.
Et contrairement à ce que nous montre cette image, celui qui parle n'est pas en haut d'un podium sur la PNIX. Il n'y a pas de podium. Et puis, il ne parle pas avec, comment dire, une position d'autorité. N'importe qui de ceux que vous voyez là peut être à la place de ceux qui sont là-haut, à proposer quelque chose pour la cité. Donc c'est pas... Alors, bien sûr, il y a une organisation des voix, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui distribue la parole, mais celui qui lève la main doit normalement être écouté. Donc il vient... Il n'y a pas de micro, si vous voulez. C'est très important, la présence du micro. La présence du micro, c'est ce qui fait que tout le monde se tait, bien sûr, s'il y a que moi qui parle. Et ça, c'est pas démocratique. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, c'est... Remarquez, peut-être que ceux qui sont là-haut, ils ont été élus parce que c'est peut-être des stratèges. Hein, donc, on peut bien croire ça. Et puis, on peut croire que ce qui se passe là, c'est ce que raconte Démosthène et que je vous raconte maintenant. C'était le soir. On va annoncer aux Britanniques l'occupation d'Elathée. Elathée est occupée par la Macédoine. Après cela, les uns aussitôt, se levant au milieu de leur dîner, chassant les gens de leur boutique, pendant que les autres convoquaient les stratèges, appelaient à coups de trompette, toute la ville était remplie de mouvements. Le lendemain, dès le jour, les Britanniques convoquaient le conseil, c'est-à-dire la boulet, et la salle des séances, c'est-à-dire la PNIX, tandis que les citoyens se rassemblaient tous à l'assemblée. Et avant que le conseil eût délibéré et préparé son rapport, tout le peuple était là, assis sur la PNIX. Puis quand le conseil fut arrivé, le conseil c'est-à-dire la boulet, et que les Britanniques eurent fait connaître les nouvelles qu'on avait apportées et eurent présenté leur informateur pour en être sûr, quand celui-ci eut parlé, le héros demanda « Qui veut prendre la parole? Qui veut donner un avis utile à sa cité ?» On ne voyait s'avancer personne. Le héros répéta plusieurs fois sa question. On ne voyait personne se lever. Un homme seulement se leva. Alors bien sûr, c'est Démosthène qui parle et c'est Démosthène qui se lève pour dire qu'il faut aller lutter contre Philippe, c'est-à-dire contre la Macédoine, hein, ça, à ce moment-là. Mais vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on pourrait représenter de cette façon-là, avec certainement beaucoup plus de désordre qu'il y en a là. Hein. Là, c'est assez calme. Bon, on continue juste une minute. Non,
si tu veux, mais je fais un mauvais travail, c'est-à-dire qu'il faut que je gère le temps.
D'accord.
Et voilà.
D'accord, d'accord.
Tu sais juste... combien c'est dramatique.
Juste pour dire, comment est-ce que ces citoyens étaient capables de ça? Ces citoyens, ils étaient éduqués. Alors d'abord, il y avait une éducation pour l'enfance, hein, pour l'enfance, c'est-à-dire que chez le pédotribe et chez le sitariste, les enfants apprenaient l'éducation musicale, l'équitation ou alors la façon de ramer. Ensuite, l'enfant allait chez le grammatiste pour apprendre les lettres et la lecture, parce que tout le monde devait être capable de lire les lois et de lire les rapports de la boulet qui étaient inscrits ensuite sur les tablettes. Donc il fallait absolument savoir lire. Et tous les ostracas qu'on a retrouvés étaient très très bien écrits. Et donc ça c'était dans l'enfance. Puis ensuite, il passera à l'étude des bohèmes homériques, ça c'est essentiel, il faut savoir, et ensuite la géométrie. Bon, ça c'est pour l'enfant. Et ensuite, les adultes, l'éducation politique. L'éducation politique se faisait essentiellement au théâtre. Tout à l'heure, je vous ai raconté la victoire de Salamine sur les Perses. Eh bien, 4 ans après, Eschyle a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Les Perses, qui est du point de vue des Perses, du point de vue des perdants. Qu'est-ce que c'est que d'avoir été vaincu? Qu'est-ce que ça veut dire que de devenir esclave parce qu'on a été vaincu? Il montre ça sur le théâtre. Il montre ça à tout le monde. C'est la leçon. C'est ça quand vous faites la guerre. Et ça, c'est une leçon politique. Et Eschyle a été, parce que c'était un concours, hein, il a été le premier au concours. C'est-à-dire que le peuple a dit « Bravo, c'est ça qu'il faut dire ». Donc ça, c'est une éducation politique. Et l'éducation donc par le théâtre, et l'éducation par toutes les discussions qui avaient lieu chez le barbier, au lavoir, parce que ne croyez pas que les femmes étaient exclues de la vie politique. Toute la vie religieuse dépendait des femmes. C'est elles qui organisent les grandes processions, les panathénées, qui tissent le voile pour la déesse. Donc elles participent complètement à la vie sociale, et au lavoir, j'aime mieux vous dire qu'elles ont la langue pendue. Quand on lit Aristophane, par exemple, Lysistrata, qui est une pièce extraordinaire dans laquelle les femmes disent « Nous, on veut la paix, on ne veut pas la guerre. Donc, si les hommes continuent à faire la guerre, nous, on fait une grève, on fait la grève du lit. » Et comme ça, on obtiendra... Bon, mais pour que Aristophane ait pu écrire ça, vous imaginez quand même le rôle des femmes. Par exemple, Périclès, qu'on a vu tout à l'heure, on a prétendu que toutes ces lois avaient été inspirées par Aspasie, qui était à la fois une métèque et considérée comme une femme perdue, parce qu'elle avait déjà connu plusieurs hommes avant de se marier avec Périclès. Donc tout ça pour dire que qu'est-ce que je voulais raconter là?
Attention.
Je voulais parler de l'éducation, et de dire que l'éducation politique, elle était présente tous les jours. Tout le monde parlait politique tout le temps. Et on a des témoignages justement chez Aristophane ou même chez Sophocle ou chez Euripide, des discussions qui avaient lieu dans le cœur. Le cœur représente le peuple, hein. Le cœur est sur scène, le cœur représente le peuple. Et par exemple, le peuple au début d'Antigone, le peuple dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a deux qui se sont entretués, là c'était deux frères. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc le peuple se pose des questions, il réfléchit, il se dit « Est-ce qu'on doit condamner l'un ? Est-ce qu'on ne doit pas condamner l'autre ?» Il y a tout un... C'est pas seulement... Nous, on croit, depuis qu'on connaît pas ça, on croit que c'est des héros. Mais non, c'est un problème politique qui est posé. Est-ce que la raison d'État, représentée par Créon, est-ce que la raison d'État doit l'emporter ? Ou est-ce que c'est la résistante Antigone qui doit l'emporter ? Ça, c'est des questions posées au peuple, posées à tout le monde.
Eh oui, merci pour cette vaillance, cette passion. Et maintenant,
je voudrais boire un peu. On va passer aux questions.
Donc nous allons passer au moment très recherché, très précieux des questions démocratiques. Habituellement, on réduit ce temps à une trentaine de minutes, on a un petit peu de retard, et on est sensible à ce retard, bien entendu. Ah ben, oui, bien sûr. Hein? Il est absolument pardonné. Alors, vous vous en doutez, dans les réponses aux questions, il y a autant de passion que dans la première phrase. Donc on va essayer de contrôler, là aussi. la durée, pas le contenu. Allez. As-tu récupéré un peu ?
Oui.
Alors, question. Une question là-bas au fond. La lumière va venir et je vais venir avec le micro.
J'aimerais savoir en fait si c'est réel que la démocratie est née en Occident, on va dire, ou si c'est les premières sources qu'on a eues de la naissance de la démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas eu des démocraties ou des formes de démocratie ailleurs dont on n'avait pas forcément, enfin on n'en a pas fait notre héritage culturel et on n'en avait pas forcément connaissance jusque-là?
Oui, bien sûr. Mais par exemple, les pirates, les vikings. Il paraît, il y a un livre récent sur les pirates qui dit que les pirates avaient un fonctionnement très très démocratique. Les vikings aussi, les vikings n'étaient pas, ils fonctionnaient de façon très démocratique. En Afrique, il y a seulement, très souvent, il y a des croyances religieuses attachées. Très souvent. Et par exemple, en Afrique, les personnes plus âgées, enfin, il y a souvent, ont plus d'autorité, ou des choses comme ça. Donc, si vous voulez, c'est vrai que des assemblées, et il y en a eu beaucoup, et dans des tas d'endroits hein, au monde, mais un système politique écrit, avec des lois précises, et avec une précision comme celle qui... je veux dire que c'était inscrit en quelque sorte dans le marbre. C'est pas la tradition orale, là. C'est pas la tradition orale, c'est pas le mythe, c'est pas les croyances religieuses. Parce que j'ai parlé des fêtes, mais il y a un petit livre qui dit « Les Grecs ont-ils cru en leur mythe ?» Je vous conseille de le lire, où il montre que, bon, on y croyait ou on n'y croyait pas, c'était un petit peu comme nous, le Père Noël, quoi. Hein. Il fallait qu'il y ait des fêtes collectives, c'était très important. Maintenant, quant à croire personnellement, c'est pas du tout ce qu'on appelle la foi. Ça n'a rien à voir. Et c'est pas non plus des croyances qui étaient... Il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas de corps religieux. Il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça de part, d'autorité. Il n'y a rien de tout ça. Donc, et il n'y a pas non plus de croyances populaires qui autoriserait le fait de poser une autorité. Même à Delphes. Donc bon, on interprétait l'oracle comme on voulait. Comme vous avez vu, Thémistocle. Oui.
Deux siècles de démocratie dans l'humanité, quelle fragilité.
Oui. Deux siècles de démocratie dans l'humanité, quelle fragilité. Mais ça, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est vrai que la démocratie, c'est le type d'organisation collective le plus fragile. Par exemple, Michels a écrit un livre il y a plus d'un siècle dans lequel il dit qu'il y a une pente oligarchique dans toutes les démocraties. Justement parce qu'elle est fragile. Comme elle est fragile, la richesse a tendance à devenir prépondérante. Et il dit la loi d'airain de l'oligarchie, il dit. Tellement c'est dangereux. C'est vrai que c'est très très fragile et ça n'est défendu que par ceux qui la portent. Hein, c'est tout. Périclès dit la richesse. Non, comment on dit ? Oui. Il dit une cité ne se défend pas par ses murailles, mais par ses citoyens.
Monsieur ? Oui, alors j'aurais une question sur l'argent. Enfin, j'ai été très impressionné par votre présentation sur la démocratie grecque, et c'est vrai que. Votre momentum. Et c'est vrai que avec les crises agraires et sociales du 7e siècle, où on était obligé pour payer ses dettes de devenir esclave. Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est que la démocratie grecque a fait en sorte de séparer l'économique du politique. La deuxième chose que je trouve impressionnante aussi, c'est l'intelligence du droit dans le monde du fait. C'est-à-dire que fait de graver dans le marbre les lois et qu'elles soient visibles par tous et pour tous en tout temps, c'est quelque chose qui a pu faire progresser la démocratie grecque. Et enfin, c'est vrai qu'il y a un point de vue symbolique aussi, c'est vrai que le nombre 10, pour moi, nous parle, parce que, en fait, les aristocrates, les grands possesseurs terriens et était habitué au nombre 12
des Jeux
Olympiques, c'est-à-dire Artemis, qui venait de... C'est-à-dire que c'était juste ce qui me venait des dieux, alors que là, c'est la raison.
Exactement.
Et c'est l'homme qui devient au centre des choses. Et je pense que c'est tout ça que porte la démocratie. Alors, la question que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on compare la démocratie qu'on vit, c'est au moins une fausse démocratie par rapport à celle des Grecs. Une démocratie illusoire. Je ne suis pas représenté, je ne suis pas dans le cercle de la PNIX pour pouvoir prendre la parole, pour participer aux lois. Je suis représenté par une classe politique qui me représente de moins en moins un petit peu. On ne représente pas les pauvres, on ne représente pas les paysans, on ne représente pas les paysans pauvres, on ne représente pas. Voilà. Et l'autre question, c'est effectivement l'argent, l'argent qui est aujourd'hui omniprésent dans la démocratie. Et je voudrais savoir ce que vous pensez de la démocratie contemporaine par rapport à ce que vient de dire sur la démocratie grecque.
Rousseau disait. Parce que les Anglais avaient fait une révolution plus tôt que la Révolution française. Donc, Rousseau dit, les Anglais se prétendent libres, tiret, une fois par an. C'est-à-dire le jour où ils votent. Et encore faut-il que le vote soit un véritable choix. Et encore faut-il que le vote soit un véritable choix. Si le vote n'est pas un véritable choix, eh bien, on n'est pas libre même une fois par an. Est-ce que cette liberté qui était le pivot de la démocratie, est-ce que nous en disposons? Et l'égalité, qui était le second pivot, est-ce que nous en disposons? C'est tout. C'est la seule question pour répondre à vivons-nous en démocratie? Même nous, je ne parle même pas des pays où c'en est une caricature éhontée.
Bonjour. Je ne sais pas si cette question a beaucoup de sens, mais pourquoi la démocratie athénienne à ce moment-là de l'histoire? Qu'est-ce qui explique que ce soit arrivé?
Oui, alors, je crois que ce qui explique, enfin, la seule possibilité d'explication que j'aurais, hein, c'est que, d'une part, le fait que la puissance maritime d'Athènes ait exigé l'importance des têtes, il a bien fallu les écouter. Si on avait pu s'en dispenser, les riches propriétaires terriens s'en seraient dispensés. Mais les riches propriétaires terriens ont été dépassés par les commerçants. Les commerçants se sont mis à faire beaucoup de commerce dans toute la Méditerranée. Et ils avaient absolument besoin d'être protégés contre les pirates par les trières d'Athènes. Donc les têtes avaient un rôle très très important de ce côté-là. Et en plus, c'est eux qui avaient permis de garder l'indépendance de la Grèce. Donc je crois que la démocratie a été imposée par les têtes, c'est-à-dire par ceux qui n'avaient rien. Et ça n'a eu lieu qu'à ce moment-là chez ces gens-là, parce qu'ils ont fonctionné comme ça avec ce système de bateaux. Ils ont inventé la trière, et ils ont inventé le fonctionnement du commerce maritime. Donc ça, c'est une des causes. Et la seconde cause, je crois, c'est cet immense appétit culturel, cet immense appétit de culture. Alors je ne sais pas... À quoi c'est dû cette immense et petite culture qu'il y a eu à ce moment-là?
La recherche de la beauté. La recherche de la beauté.
Oui, et la recherche de ce que tu disais pour la raison, le 10, c'est quand même Pythagore, c'est quand même... Hein, donc, toutes ces recherches des physiciens, hein, la raison, et la recherche de la beauté, comme on le voit dans toutes les statues, comme on le voit dans le Parthénon, comme on le voit, tellement plus important que c'est encore plus important que de construire un bateau. Enfin, cet amour de la beauté, cet amour de la langue dans le théâtre, cet amour de tout ça, je pense que ça a convergé à ce moment-là.
Oui, personnellement, en tant qu'économiste, j'ajouterais aussi, en réponse à la question, ce qui, de mon point de vue, explique un petit peu ce qui s'est passé au 7e siècle et au 6e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, c'est l'arrivée de la monnaie et le développement des affaires commerciales aussi est passé par cet élément. Et la monnaie est arrivée venant de l'Attique, bien sûr, venant surtout de la partie turque.
Alors Finlay n'est pas d'accord.
On n'est pas d'accord aussi.
Non, c'est pas moi. Finlay n'est pas d'accord parce qu'il dit qu'il y avait des monnaies phéniciennes qui circulaient pour le commerce, mais qu'Athènes a imposé la monnaie à la chouette, pas du tout pour des raisons commerciales, mais pour des raisons d'honneur. Parce que c'était de frapper monnaie,
c'était de dire il dit ça parce que la monnaie à la chouette ne valait pas plus que la monnaie phénicienne. Donc c'était pas une, comment dire, pour l'emporter sur le marché. C'était pas pour cette raison-là, voilà. Mais bon. T'as peut-être raison quand même, hein, c'est pas.
J'aurais aimé prolonger un peu la question que vous avez posée et vous entendre sur la démocratie qu'on a, nous, ici, actuellement en France. Et pour ça, je veux revenir sur un événement qui est très important, l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Ah oui.
C'est un événement très important.
Oui, oui. Oui.
Donc, notre Premier ministre a pris une décision qui paraît, d'un certain point de vue, non démocratique, puisque c'était contre le référendum consultatif, le résultat du référendum consultatif, et contre l'avis des élus locaux, la grande majorité des élus locaux. Cependant, des citoyens, on peut vraiment appeler ça des citoyens, des gens qui sont engagés, qui ont apporté des arguments qui semblaient correspondre à l'intérêt général, avec après beaucoup d'années de lutte, ont finalement convaincu l'opinion française, peut-être, et en tout cas, ont conduit à cette décision. Donc, je voulais avoir votre point de vue sur est-ce qu'on n'est pas à un tournant démocratique ? Est-ce que, finalement, notre démocratie, on ne va pas la juger d'une autre façon ? Pas de façon représentative, pas juste avec des votes ponctuels, mais avec l'implication citoyenne persévérante.
Oui, non, c'est vrai que la persévérance, c'est une vertu. Mais et les élus, alors ça, par rapport à Athènes, hein, je vous signale que l'élection, jusqu'au XVIe siècle, c'est considéré comme aristocratique. Parce que c'est un pouvoir aristocratique, celui des élus, même les élus locaux. Parce que être élu, ça veut dire être le meilleur. Donc être le meilleur, c'est aristocratique. C'est Aristoi, c'est le meilleur. Donc c'est pas démocratique. Toute élection est aristocratique. Et jusqu'au XVIe siècle, tout le monde en sera convaincu. C'est tout à fait récent, cette idée d'élection considérée comme, d'une part l'élection, d'autre part le vote majoritaire. Ça aussi, c'est un principe contemporain qui n'existait pas du tout à l'époque. À preuve, ce qu'on appelle le graphé par un homone. C'est-à-dire, quand l'Assemblée avait voté à la majorité une décision, si un citoyen disait que cette décision n'était pas juste, on recommençait à s'informer et à revoter. C'est-à-dire qu'on considérait qu'on s'était trompé, même à la majorité. Donc, c'est pour dire que cette idée que la démocratie, c'est l'élection et la majorité, ça c'est après Hobbes, on n'a pas eu le temps de parler de Hobbes, mais c'est tout à fait récent et c'est pas originel de la démocratie, pas du tout. Et nous on a sorti la démocratie de cette croyance au vote et à la majorité, c'est pas du tout le cas. Bon, pour Notre-Dame-des-Landes, je pense qu'il faut se méfier. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense qu'il faut se méfier. Il faut se méfier parce que c'est, comment dire, une garantie. Enfin, pas une garantie. C'est donné pour plus tard, dans d'autres cas, ne pas le faire. Parce qu'il y a beaucoup de points qui sont litigieux du même genre et que d'avoir eu ce geste pourra par la suite permettre de ne pas l'avoir dans beaucoup d'autres cas. Qui auront beaucoup plus d'implications économiques que ça. Bon, c'est ma méfiance personnelle.
Autre question ?
Oui, attends.
Alors, après,
oui, moi je reviens, pardon, je vais revenir un petit peu à la Grèce. Bon, je crois qu'on a tous beaucoup d'admiration pour la culture grecque et pour ce travail qui a été fait
autour de l'idée de.
Ce travail de mise en forme, en fait, cela étant, moi j'ai voulu quelques petites précisions sur les nombres, parce que tu as dit qu'il y avait un quorum, il y avait 6 000 personnes, okay, sur la PNIC, 6 000 personnes, alors qu'il y avait 60 000 citoyens, donc ça veut dire qu'il y avait un citoyen sur 10 qui participait à ces assemblées, et il y avait 60 000 citoyens, et il y avait 600 000 habitants.
Donc les citoyens, les gens habitants.
Enfin, qui se prononçait le dixième, à peu près, hein, en gros, je crois, de la population.
Donc,
ça ne met pas du tout en cause l'admiration qu'on peut avoir pour ce temps de la démocratie en Grèce. Après, ça relativise quand même un petit peu la question de représentation, etc. Hein, c'était 6 000 citoyens sur 600 000.
Alors, l'idée de représentation, comme l'idée de vote, est une idée contemporaine. Personne ne croyait représenter qui que ce soit, sauf soi-même. Hein, il n'y a pas de représentant. Quand on est tiré au sort, il n'y a pas de représentant. Et ceux qui venaient, ce n'étaient pas toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'être... Je ne vous ai pas dit ça. On n'avait pas le droit d'être tiré au sort plusieurs fois de suite. Donc, ça veut dire que tous les citoyens avaient dans leur vie une chance d'être un jour tiré au sort sur tout ce nombre. Bien sûr que ceux qui venaient, c'était pas toujours... C'est une rotation. C'est-à-dire que ce n'étaient pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes 6000 personnes qui venaient chaque fois. Il n'y a pas de corps électoral constitué. Il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de militants. Il n'y a pas de... Donc ceux qui viennent, c'est des simples citoyens. Il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas une permanence. Maintenant, je suis d'accord que les chiffres sont complètement fantaisistes. Moi, je les ai tirés de Castoriadis. Je vous dis de qui je les ai tirés. Bon, Mossé ne donne pas forcément les mêmes, Hansen non plus. Enfin, bon, je ne veux pas me battre sur les chiffres, hein, je ne sais pas. Mais enfin, c'est un ordre d'idées, quoi. Hein. Oui, vous avez raison, il n'y a pas de précision de ce côté-là. On n'en a pas, d'ailleurs, parce que Aristote dit quelque chose, Thucydide dit autre chose, bon, Aristophane encore autre chose. Donc on est... franchement, je ne me battrai pas là-dessus. Hein, c'est...
Encore une question ?
Qu'est-ce qui m'aurait donné la qualité de citoyen ? Est-ce le fait d'habiter sur la région d'Athènes ?
Ah ben non, si vous habitez Marathon, si vous habitez Eleusis, si vous habitez... Vous êtes un citoyen exactement pareil. Exactement. Exactement. Alors, les métèques sont ceux qui ne sont pas citoyens, par exemple, qui viendraient de Milet ou d'Athènes. Non, parce que Milet, c'est une cité alliée. Mais de ceux qui viendraient d'ailleurs et qui voudraient faire du commerce à Athènes. Un phénicien, par exemple. Voilà. Il viendrait faire du commerce à Athènes. Alors, les métèques, ça dépend. Il y a eu des moments, par exemple, sous Clisthène, ils n'étaient pas, pas citoyens. Sous Périclès, ça a varié. Et après l'occupation de la Macédoine, là, ça a été très, 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 très réduit. Même Périclès, à un moment, a été obligé de dire « sont citoyens ceux qui sont fils d'un citoyen et d'une citoyenne ». Alors tout le monde a dit « oh, ben ça, c'est... » En fait, ça donnait de l'importance aux femmes. Ce n'était pas seulement pour restreindre la citoyenneté. C'était aussi pour dire « une citoyenne, c'est pas rien ». Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que ça a beaucoup varié dans l'histoire pour les métèques. Pour les esclaves, il y a eu trois tentatives. Il y a eu une tentative après la bataille des Arginus, où certains ont dit, ceux qui ont participé à la bataille, les esclaves, il faut en faire des citoyens. Ça a été refusé par le peuple. C'est-à-dire que les têtes, qu'est-ce qu'il y a sous eux ? Mais il n'y a que les esclaves. Donc vous savez ce qu'on dit de la distinction ? C'est toujours ceux qui sont en dessous qui doivent la garantir. Donc les têtes, ils ont refusé que les esclaves deviennent citoyens. Et ça s'est passé donc après la bataille des Argives, et ça s'est passé après la seconde stasis, celle de 411, c'est-à-dire quand les oligarques ont été poussés par Sparte pour prendre le pouvoir. Il y a eu un coup d'État que les Spartes ont payé pour que des oligarques prennent le pouvoir à Athènes. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 6 mois. C'est-à-dire que la démocratie, elle était costaud quand même. Hein. Les démocrates se sont rassemblés au Pirée, et ils ont foncé sur Athènes, et ils ont repris le pouvoir, les démocrates. Hein. Enfin, ils ont pris le pouvoir, ils ont supprimé les oligarques. Mais là, ils ont dit, les esclaves qui ont lutté avec les démocrates, il faut en faire des citoyens. C'est Thrasybule qui a dit ça. Eh bien, l'Assemblée a refusé aussi. L'Assemblée est démocratique, hein, a refusé aussi. Donc là, c'est vrai qu'il y a... Et d'un autre côté, les esclaves étaient absolument indispensables, mais contrairement à ce que dit Marx, c'était pas seulement pour travailler la terre. Par exemple, on a trouvé un... On a trouvé un contrat d'embauche pour un citoyen qui était maçon, qui travaillait sur l'acropole, et un contrat d'embauche pour son esclave, et ils étaient payés pareil. Ils travaillaient tous les deux côte à côte, et ils étaient payés pareil. Et dans les campagnes, c'est encore Castoriadis, hein, qui dit, bien rares étaient ceux qui pouvaient se payer à la fois, les euguites là, à la fois un bœuf et un esclave. C'était rare. Et un esclave, c'était très très cher et très précieux. Donc il fallait en prendre soin. C'était pas... Ceci dit, les esclaves, ils n'avaient pas le droit de venir sur la Pnyx, et les femmes non plus. Elles ne venaient pas sur la Pnyx. Mais ils venaient au théâtre, ils participaient aux cérémonies publiques. Ils participaient, les esclaves participaient aux cérémonies publiques. Donc, c'est pas. Parce que nous, quand on parle d'esclavage, on pense à l'esclavage marchandise. Et c'était pas un esclavage marchandise. Avoir un esclave, les esclaves, un esclave ne doit pas parler grec. S'il parle grec, c'est plus un esclave. Donc, les enfants des esclaves, très souvent, ils étaient émancipés. Parce qu'ils parlaient grec. Tandis que, mais bon, la plupart des esclaves, oui, c'était des gens qui avaient été soumis au cours d'une expédition militaire.
Oui, il y a une autre question, au fond.
Il y a une étymologie au mot esclave, ça a sûrement un autre sens.
Alors, il y a deux mots, il y a dolos, et puis il y a le mot qui, je ne me souviens plus là, qui veut dire les gens de maison, les gens de la maison. Un mot sur la racine de oikos. Il veut dire les gens qui accompagnent, qui sont dans la maison. Mais si vous voulez, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu de révolte de l'esclave. Alors, il y en a eu à Sparte, évidemment. Il y a eu une révolte de l'esclave extraordinaire à Sparte. Sparte, les esclaves, c'était des Messéniens. Les Spartiates sont arrivés et les Messéniens qui étaient sur place, ils ont en fait des esclaves. Bon. Et bien, les Messéniens se sont révoltés. Et ils étaient tellement indispensables à l'économie spartiate que les Spartiates ont appelé les Athéniens au secours. Venez au secours, nos esclaves se sont révoltés. Alors, à l'époque, c'était Simon qui était stratège. Simon est parti, et quand ils sont arrivés à côté de Sparte, ils étaient sur une petite montagne, les esclaves, quand ils sont arrivés là, les Spartiates se sont dit, bon sang, c'est les Athéniens, ils vont se mettre du côté des esclaves. Alors vite, ils ont renvoyé Simon, qui a été ostracisé à la suite de ça, ils l'ont renvoyé avec toutes les troupes en disant, on ne veut pas de vous. C'est pour dire comment ils étaient perçus, les Athéniens, par rapport à cette question de l'esclavage. En tout cas, il y a eu une révolte d'esclaves qui a duré 8 ans, la révolte des esclaves spartiates. Je veux dire, et les spartiates ont eu un problème économique énorme. Ils sont devenus très très pauvres, parce que eux, ils étaient tous soldats tout le temps. Donc, tandis qu'à Athènes, il y avait beaucoup de cultivateurs, beaucoup d'artisans. Donc ils n'avaient pas tellement besoin des esclaves pour travailler, ils travaillaient avec eux. C'est pas les esclaves qui travaillaient et les autres qui se la coulaient douce sur la Pnyx. Ça, c'est une vision complètement caricaturale. Les artisans étaient très très importants. Ils avaient un rôle économique essentiel. Donc, bon. Par contre, alors, les esclaves, si vous voulez, d'abord, ils ont la même couleur de peau. Et ensuite, ils sont habillés pareil. Il n'y a pas de livrée. Comparez ça avec les serviteurs de l'époque de la Renaissance, par exemple, qui avaient la livrée de la maison. Donc on savait que c'était des valets parce qu'ils avaient la livrée. À Athènes, non, ils sont habillés comme ce qu'on a vu sur l'image. Voilà, ils sont habillés comme ça. Les esclaves, ils sont habillés comme ceux que vous voyez là. Oui.
Est-ce que ça ne veut pas dire les employés de l'époque, étrangers ou de hors-sol?
Si vous voulez, mais c'est le système du salariat qui n'existe pas. C'est-à-dire, le salariat, c'est ce qui fait qu'on vous prend quand on a besoin de vous, après on vous jette. L'esclave, on ne peut pas le jeter. Donc, bon, alors, bien sûr, l'esclave, il est quand même livré au fait que si, quand il devient très très vieux, son maître ne le prend pas en charge, ben, je ne sais pas ce qu'il devient, mais en tout cas, le maître est obligé de le garder.
Donc, en tout cas, il y a la
notion
d'acheter quelqu'un.
Et non, ce n'est pas un esclave marchandise, c'est-à-dire qu'il n'est pas acheté. Il est emprunté par celui qui garde l'esclave chez lui. Il est emprunté parce que, de fait, les esclaves sont en fait des esclaves qui appartiennent à la cité. Mais il peut être emprunté par quelqu'un parce qu'il en a besoin pour cultiver sa terre ou pour construire son mur. Et après, il le garde chez lui. Il le garde dans sa maison et souvent, il le marie pour avoir des enfants et pour, pendant que les enfants travaillent, il profite du travail des enfants. Même si par la suite, quand ils deviennent adultes, ils les émancipent. Comme ça s'est passé dans la plupart des cas, d'ailleurs.
Bon, merci beaucoup. Ça continue autour d'une table que d'ici je vois extraordinairement fournie. C'est vraiment plus une auberge espagnole, c'est une auberge grecque. Et en plus, j'ai vu quelques esclaves qui tournaient autour. Donc il y a des consignes. La première consigne, ça va être le rangement de la salle. Hubert me disait. Il fallait voir
je demanderais, si vous voulez bien, c'est de réunir les chaises par 5 et de les laisser sur place. Ne pas les traîner surtout, parce qu'il ne faut pas les abîmer. Ça, c'est la première chose que je voulais vous demander. Et la seconde chose, c'est, nous faisons un sondage pour voir d'où viennent tous nos auditeurs. Et j'ai relevé les quelques-uns de vous, mais si des personnes ne se souviennent pas avoir été notées, ils viennent me voir afin que je puisse pointer vos différentes provenances. On en a besoin pour des questions statistiques par rapport aux municipalités, par exemple.
Je voudrais juste dire une chose. Je ne voulais pas parler ni de l'esclavage ni de tout ça. Ce que je voulais dire, mais les questions sont parties de ce côté-là. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est de questionner notre propre démocratie. Castoriadis dit que la démocratie doit être insurgente. Hein. Donc ce que vous disiez à propos de Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de comparer les principes démocratiques avec notre démocratie d'aujourd'hui. Ça, c'est important. Et la deuxième chose qui est importante, c'est de parler de la Grèce d'aujourd'hui, de parler de ce qu'on fait à la Grèce aujourd'hui. Ça aussi, ça me paraît une chose essentielle aussi à réfléchir à la fin de ce qu'on a dit aujourd'hui. On n'a pas parlé de ça, c'est bien dommage, parce que c'est peut-être encore plus essentiel que tout ce que j'ai raconté.
On va revenir, c'est quoi ? C'est exactement ça.
Donc, le PowerPoint que vous avez entreaperçu, on en a fait à peu près un quart, pour vous donner une idée. On y a travaillé avec Françoise, avec Pascal, avec Ali, on y a travaillé beaucoup. Et c'est pas rien, mais c'était hyper intéressant. Ensuite, vous aurez tout ça sur le site web et de la pub en vol à votre disposition, ainsi que l'enregistrement de la conférence. Et merci beaucoup, encore et encore.
Et moi, je remercie. Il faut absolument que je remercie pour le PowerPoint, là. Parce que ces images magnifiques qui ont été cherchées par vous deux, là, ça a été une base formidable pour travailler. Donc, merci de la part de tous.
Il ne faut pas élire les cahiers de gouvernement, mais il faut élire les administratifs. C'est Castoriadis qui disait qu'il ne faut pas élire les gouvernants, mais ce sont les administratifs qu'il faut élire. C'est ce qu'il disait. Je ne sais pas si c'est ce qu'il avait dit en
Ah, ben oui. Et nous, on est très très sensibles d'un point de vue amical, c'est que même nos meilleurs amis.